Nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Commençons peut-être cette réunion en chantant le cantique 638. J'ai besoin de toi, bien-aimé Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de toi, bien-aimé Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de toi tous les jours de plus en plus. Parce que c'est toi qui crée tout en moi, qui produit tout en moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tous les jours de plus en plus. Dans l'obscurité et quand le soleil brille, que tu sois mon ami et celui qui me conduit réellement. J'ai besoin de toi quand le jour passe. Dans toutes circonstances et dans l'obscurité de la nuit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur. Quotidiennement, de plus en plus, tous les jours. Dans la pureté de la nuit et quand le soleil brille, que tu sois mon ami et celui qui me conduit. J'ai besoin de la puissance de ton amour. J'ai besoin de toi tous les jours, de plus en plus. Quand le soleil brille, et dans l'obscurité de la nuit, sois mon ami et celui qui me conduit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être conduit par ton esprit. Je voudrais lire une parole de Dieu avant la prière, cela dans le psaume 98, le psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chanter des cantiques avec les trompettes et au son du cor. Pousser des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Levons-nous pour la prière commune. Dieu fidèle, nous te remercions de notre cœur, aussi pour ce jour de grâce et pour cette heure de grâce. Nous te remercions aussi pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es le roi des rois et le Seigneur de tous les seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Et toi, de ton peuple, nous ne vont pas cesser et arrêter de louer et glorifier ton Saint-Nom et de te louer, de te chanter, de t'apporter la louange et la reconnaissance et l'honneur, car tu as fait de grands prodiges, Seigneur, aussi dans et aussi parmi nous. Nous ne voulons pas arrêter de te louer et de louer ton Saint-Nom, car tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, Seigneur. Nous te louons de la profondeur de notre cœur et te demandant, fais-nous grâce aussi ce soir. Bénis ton peuple ce soir. Bénis partout ton peuple, Seigneur, où ils pourraient être, même s'ils sont dans la solitude, que tu puisses les bénir tous de la plénitude de ta grâce. Nous te remercions, Seigneur, de ce que bientôt tu apparaîtras et que tu sauveras, tu jugeras les vivants et les morts. Loué-toi son 61 ans. Amen. Nous nous asseyons. Le chef de chant n'est pas là ce soir, mais nous chantons quand même 2-3 chœurs et ensuite le frère Franck va servir avec la parole. Peut-être le Seigneur est ma force comme premier chœur. Le Seigneur est mon cantique de louange. Il est mon salut. Il est mon salut. Le Seigneur est mon cantique de louange. Il est mon salut. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout change, mais Jésus reste le même. Loué soit son Saint-Nom. Loué soit son Saint-Nom. Loué soit son Saint-Nom. J'ai des salutations fraternelles à remettre des frères et sœurs de la Norvège et aussi de la même manière de Salzbourg, l'Autriche, et aussi de deux frères de l'Inde qui les jours derniers étaient ici et de beaucoup d'autres salutations par des appels téléphoniques que j'ai eus avec des frères et des sœurs. Et par cela, des salutations m'ont été remises que je voudrais remettre ici. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour chaque occasion que nous avons d'écouter sa parole. Encore plus reconnaissants, nous le sommes quand nous pouvons voir sa parole confirmée. Il y a 10 jours d'ici, nous l'avons vécu ici, un mercredi soir, que sans effort, la foi était dans nos cœurs. Si nous devrions nous-mêmes faire des efforts pour croire, alors ça veut dire que l'étincelle n'a pas encore été allumée à nous. Frère Branham dit, ça n'a pas d'importance. Où est-ce que nous sommes sur terre et qui est-ce que ce soit? Si un homme, dans son cœur, croit Dieu et le prend à sa parole, le prend au mot, Dieu est obligé d'accomplir, de confirmer sa parole, qu'on prend au mot. Et je suis convaincu que des témoignages pourraient être rendus de ce que Dieu a fait. Et cela devrait nous fortifier dans la foi. Des hommes qui viennent à Dieu doivent d'abord croire que Dieu existe, que Dieu est là, et que Dieu est présent. Et la deuxième chose, c'est que ceux qui le cherchent, il leur accorde les choses pour lesquelles ils le recherchent. Il pardonne et accorde tout ce dont nous avons besoin. Si nous recevons cela dans notre cœur, alors nous n'avons même plus besoin de nous efforcer. Mais croire Dieu, et comme souvent nous avons eu à le dire, Dieu est digne de confiance. Il se tient sur sa parole et on peut lui faire confiance qu'il bénira. Je voudrais aujourd'hui de l'Ancien et du Nouveau Testament lire et dire plusieurs choses là-dessus. Et j'espère que par cela nous comprendrons que nous devons tout remettre au Seigneur pour qu'il puisse faire les choses bien. Deux versets de Samuel, de 1 Samuel 25 et l'autre du chapitre 26 et de Luc chapitre 13. Dans 1 Samuel, le chapitre 25, à partir du verset 30. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutile et pour s'être vengé lui-même mais lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Tous nous connaissons cette histoire. Saül avait été en fait livré aux mains de David et David aurait pu se venger. Ici, c'était Abigail qui avait intervenu pour que David ne se venge pas sur Nabal. C'était le nom. Elle savait que Dieu le Seigneur allait accorder la bénédiction parce qu'il avait donné la promesse. Cette femme, une païenne, ne voulait pas que l'homme de Dieu se venge lui-même, mais que Dieu, par sa propre, que Dieu lui-même intervienne et lui accorde la victoire et, le, et la bénédiction. Alors, c'est peut-être dans qu'elle dit, alors mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ici? Alors tu seras libre, tu te sentiras libre dans ton cœur. En allemand, tu te sentiras libre dans ton cœur. Nous devons nous-mêmes et tout notre, nous devons nous remettre à Dieu et tout notre destin, toute notre condition, nous devons remettre tout à Dieu. Que personne prenne les choses entre ses mains. Nous voulons remettre tout ce qui nous arrive au Seigneur et nous-mêmes nous remettre au Seigneur. Et la raison ici est dans cette petite phrase qui t'a promis. Le bien qui t'a promis. Verset 30. Des gens qui ont une promesse divine peuvent, au milieu de circonstances sans consolation, peuvent rester consolés et réfugiés dans ce savoir divin que Dieu veille sur sa parole et qu'au temps convenable, il accomplira les promesses qu'il a données, ce qu'il a annoncé, et alors on n'a pas besoin d'avoir des remords dans notre cœur, mais nous pouvons nous sentir libres. Je ne sais pas si nous comprenons cela, si cela concerne quelqu'un, mais ici il est dit que tu n'as pas besoin de te faire des remords ni souffrances de cœur pour avoir répandu le sang inutile et pour s'être vengé toi-même. Toi-même. Vous savez, cela est proche d'un homme. De se venger, de rendre le mal par le mal, car chacun pense avoir raison et pense être dans ses droits. Mais si chacun voulait se faire droit et se venger, et rendre, se faire droit, et qui, combien, ou alors se rendre le droit. Oui, si chacun voulait se venger, à combien de personnes on ferait du tort? Seul Dieu a une vue d'ensemble sur tout. Et aucun homme pourrait revendiquer, prétendre, voir tout, avoir la vue d'ensemble sur tout, comprendre tout. Et avoir un jugement correct sur tout. Nous voulons ici apprendre cette leçon. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il lui a promis, le Seigneur te fera tout le bien qu'il t'a promis, tout du bien parce qu'il te l'a promis, il t'a, et il t'aura et il t'établira chef sur Israël. Dieu, Samuel 25:30. L'Éternel, notre Dieu, nous fera du bien parce qu'il a promis de voir sa gloire, il nous a promis de voir sa gloire et de régner avec lui. Dieu a retenu David de ne pas faire du mal pour qu'il soit libre dans son cœur ensuite. Dieu veut des hommes qui, malgré les circonstances extérieures, sont libres dans leur cœur. De telles personnes, Dieu veut avoir de nous, veut faire de nous. Même si extérieurement, comme David autrefois, il passe par des circonstances et était même lié de tout leur cœur. Dans leur cœur, ils doivent être libres devant la face de Dieu. Et comment est-ce que cela doit avoir lieu? En ce qu'ils ne se vengent pas. Il ne rende pas le mal par le mal. Alors, il restera libre dans son cœur. Il n'aura pas besoin de se faire de remords. Je pense à cette parole, peut-être de Luc, chapitre 18, je ne sais pas exactement, où il est dit, le Seigneur fera justice à ses élus qui nuit et jour crient à lui. il leur fera justice. Luc 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? C'est pas nous qui nous font justice, nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui détend son bras et fait justice. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Dieu se souviendra de nous. Maintenant, revenons à 1 Samuel 26. Là, il a relu 1 Samuel 25, verset 31. 1 Samuel 26, à partir du verset 18. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? Et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, ou bien qui t'a irrité contre moi, en allemand, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel. Ici, David règle en une seule phrase, courtement, la situation. Et il demande à son adversaire, si c'est l'Éternel qui t'a excité contre moi, qui t'a irrité contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande, qu'il agrée un sacrifice pour que le parfum d'une offrande monte à lui. Mais si ce sont des hommes, nous l'avons lu, ce qu'il ensuite a dit par l'Esprit de Dieu. Si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisque qu'il me chasse maintenant, aujourd'hui, pour me détacher de l'héritage de l'Éternel. Comme s'il voulait me dire, va servir des dieux étrangers. Ça, c'est quelque chose, c'est une parole très sérieuse. Si c'est Dieu, alors on peut parler avec lui, apporter un sacrifice et il accordera la réconciliation et la grâce. Mais si ce sont des hommes qui t'excitent contre moi, alors quoi? Nous l'avons lu. Et que Dieu n'a rien contre son peuple, ne pense pas à faire du mal à son peuple, ça nous le savons tous. Ce sont des hommes qui sont possédés d'une puissance étrangère. Et celui qui exactement lit l'histoire, il constatera que Saül était désobéissant et qu'un mauvais esprit que Dieu avait permis de venir, que cet mauvais esprit vient sur lui et que Saül fut dans l'anxiété et cette angoisse il s'en est pris par cette angoisse à David. Et remarquez, pour David, il s'agissait pas de Saül en tant qu'individu, mais il dit ici, si ce sont des hommes qui t'excitent contre moi, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel. Comme s'il voulait me dire, va servir des dieux étrangers. Justement, cet homme que le Seigneur avait choisi pour que justement le peuple d'Israël, par lui, soit béni. Justement, cet homme, David, devait prononcer ces paroles parce qu'il me détache aujourd'hui de l'héritage de l'Éternel. Parce qu'ils m'ont détaché de l'héritage éternel en allemand. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas exécuter les choses pour lesquelles Dieu l'avait établi. Dieu veut que tous ceux qui ont été établis par lui dans un ministère, Dieu veut qu'ils puissent exercer leur ministère pour que le peuple de Dieu vienne à l'héritage que Dieu leur a accordé. Autrefois, c'est David qui a prononcé ces paroles, que le peuple de Dieu vienne, reçoive l'héritage que le peuple que Dieu leur a accordé. Et ensuite, tout, Dieu a changé toute la situation et nous savons ce qui s'est passé. Ensuite, il dit ici, verset 20, « Que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher ma vie, pour poursuivre ma vie, comme on cherche une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes, en allemand. Alors, si nous pensons à ce que David était loin, et que, en fait, c'était lui qui était déjà roi, qui avait déjà été roi, sans s'être assis sur le trône. Il devait passer par beaucoup de difficultés. Oui, les chemins les plus misérables, il devait passer. Et toute sa vie, être resté donc humilié. Ce qui me touche ici est l'expression parce qu'ils maintenant m'ont détaché maintenant de l'héritage de l'Éternel en allemand. Ils m'ont exclu de l'héritage éternel. David n'était pas en souci de lui-même, pour lui-même, mais il était en souci pour ce que Dieu lui avait promis, pour ce que Dieu lui avait annoncé. Et il pouvait supporter mieux les problèmes extérieurs que les soucis intérieurs de ne pas encore voir les promesses de Dieu accomplies. Ce que Dieu lui avait annoncé, accompli. Je pense que cela est la même chose pour nous tous. Les problèmes extérieurs, ce n'est pas le problème pour nous. Mais les problèmes intérieurs, dans notre cœur, que Dieu, malgré les problèmes extérieurs, dans le royaume de Dieu, Dieu n'accomplit pas encore dans son royaume ce qu'il a annoncé, ce qu'il a promis et ne peut pas l'accomplir. Ça, c'est notre problème parce que Dieu ne peut pas encore faire ce qu'il a annoncé. Je crois que c'est notre problème à tous. Les choses extérieures, on pourrait nous ôter tout ce qui nous appartient, nous prendre tout, notre maison et tout ce que nous avons. Nous savons que bientôt nous n'en aurons plus besoin de toutes les manières. Mais si des circonstances extérieures forme un obstacle pour que nous ne puissions pas entrer en possession de l'héritage de l'Éternel. Alors, nous devons nous tourner à Dieu et il accordera un changement. Nous voulons maintenant aller à Luc chapitre 13. Moi, il y a quelque chose qui m'occupe ici. Que des gens qui viennent, qui sont venus au Seigneur, étaient frappés par le destin et c'est justement ces hommes-là que le Seigneur a aidés, a secourus. Ici, il est parlé de la guérison. Nous voulons ici aller au chapitre 13, lire le premier verset. Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice.
«
Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Non, je vous le dis, mais si vous ne vous répentez, en allemand, changez pas vos sens, vos pensées, vos manières de penser, vous périrez tous également. Ici, le Seigneur donne un exemple. Il y avait des gens en Galilée qui ont apporté des sacrifices et ils ont tué le sacrifice et Pilate a fait en sorte qu'ils puissent aussi être mis à mort après qu'ils aient tué leur sacrifice. Et des hommes ont sûrement pensé en eux-mêmes. Ils ont été punis par Dieu, frappés de Dieu. Avec eux, il y a quelque chose de, qui n'est pas en ordre. Et le Seigneur ici les condamne. Alors que au jeu de Dieu, ce n'est pas vrai. Dieu voit les choses telles qu'elles sont. Dieu voit tous les hommes de la même manière. Seulement toi et moi, seulement nous, nous faisons des différences. Mais auprès de Dieu, tous les hommes sont semblables, sont pareils. C'est pour ça que Paul dit que Dieu, oui, comme c'est écrit, car Dieu a renversé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Romains 11, verset 32. C'est pour cette raison que la Bible dit, oui, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Donc, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Parce que tous ont péché et avec le péché, la mort. Donc, tous les hommes sont semblables devant Dieu. Tous sont fautifs devant Dieu. Ça n'a pas d'importance. Tous ont péché. Ça n'a pas d'importance comment cela a atteint l'un et l'autre. Et pour prendre cet exemple pour ce jour, est-ce que vous pensez que ces 269 passagers étaient des citoyens plus graves que tous les autres, tout plus mauvais que les autres qui sont tombés dans l'avion? Si le Seigneur était ici aujourd'hui, il dirait non. Ils étaient exactement de tels citoyens comme tous les autres. Même si cela leur est arrivé et le coup les a atteints. Mais il y a une chose ici que le Seigneur relève et dit à ceux qui lui ont posé cette question. Mais si vous ne vous répentez et changez vos pensées, vous périrez tous également. Luc 13, verset 3. Maintenant, verset 4. Ou bien, c'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous répentez, si vous ne changez pas vos pensées, vous périrez tous également. Qu'est-ce que c'était? Le Seigneur a corrigé les hommes ici, dans leurs opinions, dans leur façon de voir. Ils pensaient en eux-mêmes. Les malheurs qui arrivent aux gens, c'est parce qu'ils sont coupables de quelque chose, c'est à cause de cela leur arrive. Et c'est peut-être raison qu'ils ont été frappés par le destin. Le Seigneur a corrigé ça et a dit, mais non, que ce soit ces 18 ou bien ces autres là-bas par la tour qui ont été tués dans le sacrifice. Ils n'étaient pas plus coupables que les autres habitants. Non, ils étaient exactement pareils que tous. Bien-aimé cœur, ne te laisse pas dire par qui que ce soit que parce qu'il t'arrive des difficultés, tu es chargé de malédiction, tu es frappé de Dieu, tu es coupable de ceci et cela parce que cela t'arrive. Non. Devant Dieu, nous sommes tous semblables. Dieu C'est pour cette raison que Dieu nous a fait grâce à tous et nous a fait miséricorde à tous. Comme c'est écrit dans Romains 11, verset 32. D'autres sont frappés par le destin, d'autres par la maladie, d'autres par des circonstances de la vie qui sont désagréables pour eux. Chacun d'une autre manière. Et là, cela arrive qui n'ont jamais été frappés par le destin, mais qui vont encore avoir leur jour quand le temps arrivera pour eux. Et alors, ils viennent et disent, « Ah, mais si cela arrive à cette personne, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. » Nous voulons nous détacher entièrement de cette façon de voir les choses et nous soumettre au jugement de Dieu. Carl Jr. lui-même dit ici, était-il plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem, le verset 4, non. Je vous le dis, verset 5, Luc 13. Qu'est-ce que c'était? Le Seigneur voulait leur laisser savoir. Écoutez, ici, il ne s'agit pas de dévoiler une culpabilité. Ici, il s'agit de la repentance, de revenir à Dieu, d'entrer en soi-même. Car ici, il a dit deux fois, car si vous ne vous repentez pas, si vous n'entrez pas en vous-même, si vous ne changez pas vos pensées, vous mourrez de la même manière. Vous périrez également. Ici, nous en tirons cette leçon. Quoi qui pourrait arriver et atteindre quelqu'un, chaque autre personne aurait pu être atteint du même malheur. Mais à l'un, ça atteint de cette manière et à l'autre, d'une autre manière. Chez l'un, on le voit, c'est visible, mais pour les autres, pour l'autre, on le voit pas. Chez l'un, on l'entend, chez l'autre, on l'entend pas. Chez l'autre, on le ressent, chez l'autre, on le ressent pas. Mais devant Dieu, nous sommes tous semblables, pareils. Et ça, c'est quelque chose de très merveilleux. Avec Dieu, auprès de Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Nous avons tout à l'heure lu de David. Vu extérieurement, on aurait pu poser la question. Qu'est-ce que cet homme a commis comme crime? Il est en fuite. Il est insulté. On lui crache là-dessus. On lui jette des pierres. Il est désigné, il est considéré comme un chien. Et c'est un oin du Seigneur. David était le vrai oin du Seigneur. Et c'est justement lui qui doit entendre toutes ces insultes et être traité de cette manière et supporter tout ça. Et celui qui, en fait, avait causé tout cela, seulement parce qu'un mauvais esprit était venu sur lui, alors qu'il était entre les mains de David, David a fait que couper un bord de son vêtement et est reparti de son chemin pour pouvoir lui montrer, mon bien-aimé ami, regarde, tu étais entre mes mains. Tu aurais pu avoir perdu la vie là déjà maintenant. Si j'avais voulu, tu ne serais plus en vie. David avait l'esprit de Christ. Les sentiments qui étaient à Christ, qui étaient en Christ. Il avait les sentiments de Christ. Et il n'a pas fait de mal au oint de l'Éternel. De cette deuxième leçon, nous voulons aussi une fois pour toutes apprendre. Si un malheur d'une manière ou d'une autre arrive à quelqu'un, ne permettez pas en vous-même que cette pensée-là survienne, ou bien dans d'autres non plus, ou bien en nous-mêmes et chez d'autres, que là, il y a quelque chose, il y a une culpabilité, il y a un mal que cette personne a fait. C'est peut-être que cela lui arrive. Ces gens à Jérusalem étaient exactement des citoyens comme tous les autres à qui ce malheur avait été arrivé. Et ce n'était pas mieux. Il y en a qui ont un cancer. Il y en a qui ont une autre maladie. Ça n'a pas de sens de nous concentrer sur cela et dire, ah, maintenant si tu as cela, c'est parce que tu es coupable, c'est parce que tu fais cela, c'est parce que tu es comme ça. Non. Nous devons comprendre que le Seigneur, lui, il nous regarde et qu'il nous a fait miséricorde à tous et qu'il veut nous guérir, tous, ou bien nous sauver, ou bien nous délivrer, tous, quoi qu'il arrive. Ici, dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10, nous lisons, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Un esprit. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Si nous continuons à lire cette histoire, vous savez, le Seigneur l'a guérie. Et les pharisiens, ou bien qui que ce soit qui était présent, ont tout de suite jugé. Ça n'a pas d'importance quand est-ce que c'était, et particulièrement ici, quand quelque chose était fait au sabbat, le jour du sabbat. Ici, il est dit, la deuxième partie du verset 14, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faites guérir au jour là et non pas le jour du sabbat. Ça, ceux qui étaient en bonne santé pouvaient le dire, n'est-ce pas? Ça pouvait le dire ceux qui n'étaient pas venus pour vivre leur guérison, pour être guéris. Et s'ils avaient bien réfléchi avant de parler, ils auraient remarqué que dans la synagogue, le jour du sabbat, il avait été prêché et enseigné, et que le Seigneur, n'est-ce pas, n'est pas venu lundi ou bien ne pouvait pas aller lundi ou bien mardi, mais il pouvait que aller au sabbat, parce que c'est le sabbat, que c'est au jour du sabbat que les gens venaient pour écouter l'enseignement et tout ça. Mais ces gens-là sont passés à côté de cette réalité parce qu'ils étaient frappés d'aveuglement. De toute façon, la foule venait quand? C'était le jour du sabbat. C'est pour ça que le Seigneur venait le jour du sabbat, pour rencontrer la foule. Ensuite, au verset 16, « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous les adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait, qui se passaient par lui, qui arrivaient par lui. Nous sommes ici pour ne pas seulement écouter des paroles du Seigneur. Nous sommes ici pour vivre ce qu'il fait. Nous voulons vivre les choses glorieuses qu'il fait. Nous voulons vivre qu'il sauve, qu'il guérit, que en tant que le vivant, en tant que le même, il témoigne, il prouve sa présence et se manifeste. Et si nous l'avons lu ici, au verset 11, ici il est écrit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. En allemand, c'est un esprit infirme. Possédé d'un esprit infirme. Bon, elle était infirme, elle ne pouvait pas se tenir droite, elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Bon, on pourrait dire quelque chose de normal, ça arrive. Et ici, le Seigneur dit, au verset 16, c'est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. On dirait, bon, cette femme, ça nous fait mal au cœur de la voir se marcher comme ça. Non, mais le Seigneur a dit que c'est Satan qui l'a liée. Le Seigneur est venu pour délivrer les captifs, guérir les malades et donner la vue aux aveugles. et aux aveugles le recouvrement de la vue. Comment est-ce qu'on pouvait la laisser? Elle était une fille d'Abraham. Et malgré tout, malgré qu'elle était une fille d'Abraham, pendant 18 ans, elle a été dans la servitude. C'est long. Et nous pourrons dire, 8 ans déjà suffirait. Et un an, mais 18 ans. Mais le Seigneur, autrefois, est venu à cause de ça. Il est venu par ce chemin et il a secouru cette fille. Aujourd'hui, il veut secourir. Aujourd'hui, il veut guérir. Aujourd'hui, il veut sauver. Il veut aujourd'hui, avec sa puissance de résurrection, se manifester. Chacun peut soupçonner le mal, exprimer des soupçons et par cela jeter ceux qui sont déjà frappés dans une détresse encore plus grande. Le Seigneur n'a pas prononcé de soupçons pour rendre encore plus grave l'angoisse de ceux qui sont déjà angoissés. Mais il disait ici, fille d'Abraham, sois guérie. Et elle a été guérie. Elle a été guérie. Elle était guérie. Ici, il est dit, il dit, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? C'était une chaîne. Le jour du sabbat, et le Seigneur est venu pour délivrer, pour ouvrir toutes les chaînes. L'évangile de Jésus-Christ est pour tous ceux qui peuvent croire. Encore aujourd'hui, elle est une puissance de Dieu. Il est une puissance de Dieu, cet évangile. Et nous devons donner la place à toute cette puissance de Dieu en ce que de tout notre cœur nous puissions croire. C'était une promesse dans le prophète Ésaïe, le chapitre 61. Mais ensuite, quand Christ, sur la croix, mourut, ce n'était plus seulement une promesse, mais c'était devenu une réalité. Luc 4, le Seigneur a lu dans Luc 4 la parole de Ésaïe 61 et s'est référé à elle et a dit, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux, Luc 4, bien devant vos oreilles. » Mais depuis Golgotha, ce n'est pas seulement une proclamation de la captivité, mais la délivrance est apportée, une proclamation de la délivrance. Mais la délivrance est apportée et Satan n'a aucun droit. Il a perdu depuis Golgotha tout droit. De rester encore dans les croyants. Il doit sortir et les quitter. Et c'est pour cette raison que la prédication de l'évangile par Jésus-Christ est apportée. En tant, pas seulement qu'une proclamation de la délivrance, mais apporter la délivrance. Un message joyeux de délivrance, une bonne nouvelle. Et ça, nous voulons le faire savoir à tous, que de tout notre cœur, nous avons à croire. Et nous devons croire que Dieu a confirmé sa parole et qui n'a pas seulement rétabli, restauré sa parole parmi nous pour que nous puissions en parler. Non. Le Seigneur a restauré sa parole, c'est justement pour nous accorder entre notre main l'armure pour, d'une manière nouvelle, frapper l'adversaire qui est déjà frappé et vaincu. Et tous ceux qui ont besoin de la délivrance, de la guérison, du salut, nous pouvons leur annoncer ça. Pas seulement un évangile en parole seulement, non. Mais un évangile dans la puissance, dans la réalité. Jésus-Christ est sauveur, est rédempteur, est délivreur, est guérisseur. Il est tout en tous. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il vit. Il vit pour accomplir les promesses qui ont été données par Golgotha pour que dans ta vie et dans ma vie, elles deviennent une réalité. les promesses accomplies par Golgotha est devenue une réalité. Tous ceux qui sont ici ne pensaient plus à pourquoi est-ce que ceci et cela m'a atteint, pourquoi cela m'arrive, pourquoi est-ce que cela m'est arrivé, pourquoi est-ce que je dois passer par cette... pourquoi je dois porter cette croix, pourquoi cela m'arrive, pourquoi je dois passer par tout cela. Et peut-être que beaucoup de nous ont aussi regardé aux autres et les ont vus joyeux. Ils n'ont rien à souffrir, ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de maladie, ils n'ont pas de problème. Et nous, avec Dieu, nous sommes posés la question, pourquoi tout cela nous arrive, pourquoi tout cela m'arrive. Nous avons commencé à se demander, mais pourquoi, au lieu de croire, en se posant des questions, aucun homme a reçu les bénédictions de Dieu, mais au contraire, c'est fermer le chemin pour les bénédictions. C'est seulement le chemin de la foi qui est sûr, et c'est ce chemin que l'adversaire ne peut pas atteindre. Restons sur le chemin de la foi, alors Satan ne pourra pas l'atteindre. Ne nous demandons plus pourquoi est-ce que cela m'est arrivé. Pourquoi est-ce que je dois souffrir cela et supporter cela? Pourquoi est-ce que je dois supporter cela? Pourquoi est-ce que je dois passer par cela? Pourquoi cela m'arrive? Aujourd'hui, le Seigneur te le laisse dire. Tous les autres qui peut-être ne sont pas passés par de tels problèmes, ne sont pas mieux que toi, ou bien ne sont pas pour cette raison plus mauvais que toi, ou bien plus bon, non. Il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui, il te fait savoir qu'il est présent pour changer ta circonstance, ton destin, et pour guérir, pour secourir, pour sauver, pour faire tout ce dont tu as besoin. Tous ceux qui étaient ici mercredi savent que nous n'étions pas dans une atmosphère spéciale. Et nous ne devions pas rester longtemps dans la prière, dans une atmosphère. Nous avons simplement cru et agi dans la foi. Et Dieu était obligé de confirmer sa parole. Dès maintenant, ne faites plus cette vieille erreur. Si on prie pour vous, n'essayez pas de vous mouvoir dans quelque chose. J'ai observé cela alors que je priais pour les malades. Quand des gens croyants venaient, ils ont commencé à prier en langue pendant qu'on leur imposait les mains, ou bien à dire Alléluia. Et je pensais je savais dans mon cœur, ils sont même pas dans la chose. Ils veulent seulement montrer que ils ont la relation avec Dieu et qu'ils croient. Mais à la chose même de laquelle il s'agissait, c'est-à-dire de croire, ils sont passés à côté. Alors qu'on a imposé les mains, ils ont parlé en langue. Même en partant, ils étaient en train de parler en langue, mais ils n'étaient pas guéris. Ils n'étaient pas guéris. J'ai souvent vécu ça. Et ça m'a attristé de voir que les gens ne comprennent pas qu'il ne s'agissait, il ne s'agit pas que nous puissions en ce moment-là, pendant qu'on prie pour nous, que nous mouvons dans une atmosphère spéciale. Nous devons justement sortir de tout cela parce que c'est une situation, c'est artificiel ce que nous produisons de nous-mêmes. Nous devons rester réels et normal tel que nous sommes avec Dieu. Tel que nous sommes les uns avec les autres. C'est comme ça que nous devons être avec Dieu. Tout ce théâtre et cette comédie doit cesser. Simplement venir tel que nous sommes, comme les gens autrefois venaient au Seigneur. C'est comme ça que nous aussi devons venir aujourd'hui au Seigneur, tel que nous sommes. Remarquez-vous cela. N'oubliez pas cela. Si vous venez pour qu'on prie pour vous, donc il ne s'agit pas d'autre chose. Il ne s'agit pas en ce moment de que quelque chose d'autre se passe. Mais il s'agit d'une seule chose. C'est-à-dire que vous puissiez voir Dieu comme véritable et le prendre au mot et croire au moment où on vous impose les mains. Alors, la puissance de guérison de Dieu vous remplira. Si vous pensez comme ça, Moi, j'ai aucun souci, mais je n'ai plus de souci. Alors Dieu pourra faire les plus grands prodiges. Mais si vous venez et pensez, bon, un moment, maintenant, si il prie à haute voix, fort et puissant, j'ai écrit ça dans la lettre circulaire. Il ne s'agit pas de la voix de celui qui prie. Oubliez tout ceci, ceci, si cela, s'il fait ceci, s'il fait cela. Car ça, ce n'est pas de la foi, ça, c'est de la cela, superstition. Et il y en a qui sont plus profond dans la superstition et l'incrédulité. Et ils se pensent être croyants. Je veux vous dire aujourd'hui, celui qui aujourd'hui pense mal dans son cœur et s'invente de telles choses, il a sûrement un signe sûr qu'il ne croit pas, mais qu'il est dans la superstition. Oh, quelqu'un va prier pour moi. Je vais lever les mains. Je vais louer le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Si la chose ne se déroule pas comme vous l'êtes imaginé, alors qu'est-ce qui se passera alors? Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas croire ou bien quoi. Donc tout est en vain. Si votre foi est liée à ce que vous vous êtes imaginé, et qui va se moquer ensuite? Qui va se moquer ensuite de vous? L'adversaire. Nous devons comprendre que nous devons croire et faire la différence entre la foi et l'incrédulité et la superstition. La foi est ancrée dans la parole de Dieu, sans imagination. Et l'incrédulité s'invente des choses, se représente des choses, s'imagine des choses. Et rien ne va arriver. Oh combien on déjà inventé beaucoup de choses, se sont imaginé beaucoup, toutes les meilleures choses. Quand il va prier pour moi, alors qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Mais les gens qui croient, ne réfléchissent pas, ne s'imaginent rien. Comment cela doit se passer? Et qu'est-ce qu'il doit me dire dans sa prière? Qui me oindra, oui ou pas? J'ai quelque part prié pour tout un nombre de personnes. Et alors, il y a une sœur qui est venue et elle m'a dit, « Mais frère Franck, à cette personne, il y a cette personne, à la fin, tu as encore dit cette phrase et ce mot, et chez moi, tu ne me l'as pas dit quand tu as prié. » Peut-être que la sœur est même ici. Je ne sais même pas où est-ce que c'était. C'est bien. Quand on n'a pas une bonne mémoire, alors personne ne peut m'en vouloir. Mais je dis cela pour la raison suivante. Il y en a qui viennent pour qu'on prie pour eux. Et ensuite, ils ont leurs propres imaginations. Comment cela doit se passer? Même comment ils doivent prier. Mais cela n'est pas possible. Nous ne pouvons pas venir à Dieu avec des propres imaginations. Nous devons, dans la foi, venir à Dieu et dire, Seigneur, comment est-ce que cela va se passer? Moi, je suis d'accord pour tout. Je crois que tu m'as guéri, que ton nom soit loué. Que ce soit qu'on met loin d'huile, ou bien qu'on ne met pas loin d'huile, ou bien qu'on ait ordonné aux puissances ténèbres de me quitter, ou bien pas, qu'on ait chassé le diable, ou bien, ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que la prière a été? Chacun a la relation avec Dieu. Est dans la présence de Dieu et ne regarde même pas à ce qui est dit dans la prière, mais remercie déjà Dieu à l'avance pour ce qu'il a accordé et pour ce que nous avons reçu. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est très important de croire. Pourquoi est-ce que l'ange de l'Éternel a dit à frère Branham, si tu peux atteindre que les gens puissent te croire, puissent croire. C'est important de croire Dieu. Mais vous savez, c'est écrit dans Jacques, beaucoup croient en Dieu, même le diable et tremble. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien de le faire. Car même les démons, bien le diable, croient et tremblent. Nous n'avons pas besoin de cette foi en général que tous ont. Il s'agit de la foi directe qui est ancrée dans le Dieu vivant qui a fait des promesses dans sa parole et notre foi est ancrée dans ses promesses, dans la parole de Dieu et dans ce qu'il a accompli. Et nous disons de tout notre cœur, Seigneur, je te remercie de ce que tu as donné la promesse que sur la croix à Golgotha, tu as rendu cela réel à Golgotha, la guérison, le salut de mon âme. Et cela s'était promis, mais à Golgotha, ce qui est depuis Golgotha, ce qui était promis n'est plus maintenant seulement aujourd'hui promis, mais c'est devenu depuis Golgotha une réalité et c'est mis à ta disposition. C'est accompli. Jésus-Christ ne va pas aujourd'hui venir pour sauver. Une fois pour toutes, il est venu et il a sauvé et en mourant pour les pécheurs et il reviendra sans péché pour prendre ceux qui ont été complètement délivrés et sauvés et rachetés du péché. Il les prendra, il reviendra sans péché, il ne reviendra pas toujours. Comme ça, il est venu une seule fois et il a ôté pour toujours le péché et il a accordé une rédemption éternelle. Éternelle. Mais dans les réunions, il est présent pour par l'annonce de la parole de Dieu en nous produire la foi. Susciter la foi. Cette femme était une fille d'Abraham. Et la première rencontre qu'elle a eue avec Jésus signifiait pour elle la délivrance, le salut de ce mal. Je me souhaite à moi et à tous ceux que Dieu appelle que leur première rencontre avec le Seigneur dans une réunion soit est un tel résultat biblique comme dans le ministère de Frère Balaam autrefois, de parlant du Seigneur Jésus-Christ d'autrefois. Le prochain sabbat, elle n'avait plus besoin de revenir à la réunion malade, encore liée. La première rencontre avec le Seigneur dans la réunion a suffi et lui a apporté la guérison, la délivrance, le salut. Bien-aimé cœur, si tu as vraiment eu une rencontre avec Jésus, alors tu reçois ton salut, ta délivrance, ta rédemption, ta guérison. Aucun, personne. Il a eu besoin de dire à quelqu'un, reviens dans une semaine plus tard. Personne n'a entendu ça. Ça, ce sont les docteurs sur terre qui le disent. Ils prescrivent quelque chose et ils savent très bien comment cela va se passer. Et reviens, s'il te plaît, dans une semaine. Et alors, on est encore là. Mais le docteur céleste, le médecin céleste, est-ce que vous comprenez? Le médecin céleste, lui, il ne peut pas dire à quelqu'un, reviens dans une semaine. Il peut que dire, sois guéri. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Ou bien va et ne pêche plus. Le Seigneur veut se manifester. Cela est pour moi devenu une assurance, une certitude. Il veut se manifester. Il veut prouver sa présence. Il veut confirmer sa parole. D'une grande bonté biblique et glorieuse. Mais nous devons venir à lui de la bonne manière, c'est-à-dire dans la foi, et avoir constamment devant nos yeux l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha. Quelqu'un qui veut recevoir sa guérison en pensant, Seigneur, est-ce que tu vas me guérir? Est-ce que tu peux me guérir? Ça veut dire qu'il n'a pas encore compris l'évangile. Quelqu'un qui prie encore pour sa guérison, il n'a pas encore compris l'évangile. Quelqu'un qui a compris l'évangile comprend que sa guérison a déjà eu lieu. Comprend qu'il est déjà guéri. Sa délivrance, son salut a déjà eu lieu. Car il fut meurtri, blessé à cause de nos péchés, frappé à cause de nos souffrances, de nos frappé à cause de nos maladies. Et notre condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que cela ait duré 18 ans ou bien 8 ans, ça ne joue aucun rôle. Le Seigneur est le même. Et la première rencontre avec lui apporte déjà un changement, et nous repartons de sa présence en tant que sauvés, affranchis, bénis, guéris. Personne puisse penser encore à cela. Oh, cela m'a atteint, cela m'est arrivé. Pourquoi pas d'autres? Pourquoi c'est à moi que cela arrive? Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi est-ce que je dois passer par tous ces problèmes? C'est pas comme ça que nous pourrons continuer à aller de l'avant spirituellement. Non, encore moins. Là, par des pensées comme ça, nous serons toujours affligés dans nos âmes et misérables. Et spirituellement, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Mais si nous tirons la leçon de notre Seigneur et nous disons, bien-aimé Seigneur, tous les hommes sont devant toi semblables. Sans tenir compte de la manière avec laquelle l'un et l'autre est frappé par le destin. Seigneur, je ne vais plus tirer de comparaison. Aide-moi à cela. Je veux venir à toi et je veux que tu me touches. Je crois que tu m'as sauvé, que tu m'as guéri, que tu m'as délivré. Et si nous imposons les mains, alors ce n'est pas pour guérir, mais c'est comme un signe que nous croyons que vous êtes guéris déjà par la maîtrise de Jésus. C'est pour cette raison qu'on vous impose les mains. C'est un acte de foi que nous faisons au nom du Seigneur. Et il a dit, c'est pour cette raison, dans Marc 16, voilà les œuvres, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront, voilà les œuvres qu'accompagneront ceux qui ont cru. Et entre d'autres, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Même si nous ne disons rien, prononçons aucune parole de prière, nous fermons la bouche, mais que dans notre cœur, nous disons grâce à Dieu que en Jésus-Christ, nous rendons grâce à Dieu qu'en Jésus-Christ, la pleine délivrance, la pleine guérison et le plein salut ont eu lieu et que cela soit manifesté. Même si on fait qu'imposer les mains sans rien dire, alors nous venons dans la foi et le faisons tel que Dieu l'a dit, ils imposeront les mains. Donc nous venons et nous faisons et nous attendons tout du Seigneur. Pas d'un homme, rien d'un homme, mais tout du Seigneur. Comment est-ce que Dieu ne nous donnerait pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a pas épargné son fils. Oui, il nous a accordé toutes choses avec lui, avec son fils. Arrête de creuser, arrête de te détruire et commence à croire et à remercier Dieu. Et tu verras sa gloire et ses miracles. Fils et fille d'Abraham, fils et fille de Dieu, pour nous restent valables les promesses. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen par Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, nous pouvons tous dire amen et être heureux et joyeux et rendre grâce de notre cœur à notre Dieu. Aujourd'hui, ce soir, nous pouvons encore avoir un culte de guérison divine, une réunion de guérison divine. Et encore ce soir, Dieu d'une manière puissante peut se manifester parmi nous, comme il a fait. Il est le même hier aujourd'hui et le même éternellement. Vous allez dire à personne ce qu'il fera, que chacun se laisse conduire par l'Esprit de Dieu et qu'il vienne au Seigneur tel qu'il peut le faire dans la foi. Et le Seigneur confirmera sa parole et faire ce qu'il a fait autrefois. Cette femme, une fille d'Abraham, comme Satan, déjà depuis 18 ans, l'avait retenu lié. Ne devait-elle pas être délivrée de ses chaînes le jour du sabbat? Aujourd'hui, c'est aussi le sabbat. Est-ce que cela ne devrait pas avoir lieu aujourd'hui? Pourquoi pas avoir lieu aujourd'hui? Absolument. Si, si. Notre Seigneur est le Seigneur, aussi sur le sabbat. Il est le Seigneur sur la vie et la mort. Sur les vivants et les morts. Il a vaincu la mort, l'enfer. Pourquoi est-ce que nous devons pas, pourquoi nous devrions craindre? Non, par ces paroles-là. Tous ses adversaires étaient confus. Il lit Luc 13, verset 17. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait, qui se passaient par lui. Les deux étaient là. Les adversaires avaient à critiquer le Seigneur, les a confus avec ses paroles. Mais il a, par ses œuvres, rendu libres ceux qui étaient venus à lui dans la foi. Les adversaires écoutaient ses paroles et étaient confus et repartaient, mais les autres expérimentaient les œuvres glorieuses du Seigneur et étaient heureux et joyeux. Ici, il est dit, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Luc 13, verset 17, ce qu'il faisait. C'est maintenant que cela doit revenir parmi nous. Que les adversaires soient confus, repartent. Avec ces paroles, il leur ferme la bouche. Mais tous ceux qui viennent à lui pour recevoir de lui le secours se réjouissent de toutes les choses glorieuses qu'il fait en eux. Pas qu'il faisait, mais qu'il fait encore aujourd'hui en eux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, est le même éternellement. Loué et exalté soit son saint nom. Amen. Amen. Levons-nous. Peut-être que nous chantons ce cœur tel que je suis sans rien de moi. Père céleste, ensemble nous venons devant ta sainte face. Nous pensons au psaume 103. Nous pensons à Ésaïe 53. Nous pensons à l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans la foi, nous regardons à Golgotha. Ô Seigneur fidèle, c'est là-bas que toutes les promesses de Dieu en toi, le Rédempteur, le Sauveur, pour tous les rachetés, ont été résumées et sont devenues une réalité divine, ont été faites une réalité divine. Depuis Golgotha, nous ne regardons pas à, nous ne nous attendons pas à un enthousiasme ou à une atmosphère que nous produisons nous-mêmes et qui ensuite se refroidisse. Et alors, qu'est-ce qui se passerait si on a mis notre confiance là-dessus? Mais ensemble, dans la foi, nous venons à toi et te remercions déjà pour ta parole. La foi est ce soir dans nos cœurs par la prédication qui est venue de ta parole. La foi est venue dans notre cœur. Et dans cette foi, nous nous tenons ici maintenant, devant ta sainte face. Nous te remercions pour ta présence au Seigneur. Tu es ici pour confirmer ta parole. Tu le fais, car tu es véritable et fidèle. Alléluia. Loué et honoré sois-tu. Que ton nom reçoive l'honneur, la gloire et l'adoration, Seigneur. Ôte tout de tous, chaque affligation, chaque fardeau, toute chaîne, ô Seigneur. Tu as déjà prononcé une parole. Et ta parole produit toujours l'effet pour lequel elle est envoyée. Je te remercie. Je te demande pour moi-même et pour tous les frères et pour toutes les sœurs, Seigneur, que nous puissions dans la foi nous tenir là, dans la foi en toi. C'est peut-être raison que nous ne regardons pas à nous-mêmes ou bien à la maladie, ou bien aux maladies, ou bien aux douleurs, ou bien aux souffrances. Mais nous regardons à toi qui a porté nos maladies, nos souffrances, nos douleurs, et que tu t'es chargé de nos douleurs. Tu les as portées pour que nous n'ayons plus besoin de les porter. Aujourd'hui, que à tous dans cette maison et tous ceux qui écoutent cette prédication, que le salut de Dieu, ils puissent le recevoir dans leur esprit, leur âme et leur corps. Oh Seigneur, confirme ta sainte et précieuse parole en tous ceux, pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Amen. Frère Franck, prie pour les malades. La pleine foi, la puissance de Dieu soit manifestée. En vertu de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Pour selon ta prière. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Selon la parole de Dieu. Je te oindue le nom de Saint-Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu, nous t'imposons les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois complètement délivré par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Selon la parole de Dieu. Au nom du Seigneur. Selon la parole de Dieu. Cela est accompli. Tu es guéri. Tu es délivré. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens dans le cœur, selon la parole de Dieu. Je te oins d'huile au nom de Saint-Jésus-Christ. Aujourd'hui, en cet endroit, les Écritures devant nos yeux et devant tes yeux sont accomplis. Tu es guéri dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le frère, au nom de Jésus-Christ, si tu crois, comme les Écritures, tu te oins d'huile au nom du Seigneur. Aujourd'hui, en cette heure, les Écritures sont accomplies. Tu es guéri, délivré et béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Nous nous asseyons. Louis, remercie le Seigneur. Bien, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de croire comme nous l'avons entendu. Et de ne pas nous donner à des autres illusions. Comment est-ce que cela doit se passer ou bien comment cela doit se passer. Nous avons seulement besoin d'agir. Et Dieu fait le reste. Comme déjà le frère Franck le disait, ici, ce mercredi, nous avons expérimenté quelque chose de merveilleux. Dans la Tchécoslovaquie, nous avons eu des frères et des sœurs ici. La sœur a été guérie. Je dois dire de ma femme aussi. Si quelqu'un était malade, c'était ma femme. Vraiment. Elle s'est piquée deux fois par jour parce qu'elle avait un haut diabète. Un haut élevé de sucre. Un taux élevé de sucre. Et le sucre restait et elle prenait des comprimés pour la tension et pour la circulation sanguine et pour le cœur. C'est ainsi. Et ce soir-là, un miracle s'est passé. Vous savez, on n'a pas le droit d'arrêter de se piquer quand on a le diabète sans une autorisation médicale. Mais elle a arrêté de se piquer. Elle a arrêté de se piquer depuis qu'on a prié pour elle. Et après 3 jours, elle est allée se faire examiner. Et le sucre était plus de 20 inférieur au taux qu'elle avait quand elle se piquait. Quand elle se piquait. Elle a fait qu'aller se faire examiner. Nous faisons confiance à Dieu. Et nous croyons Dieu. Nous n'avons pas besoin de regarder à ce que nous ressentons. Nous devons faire attention à ce que Dieu dit. À ce que Dieu dit. Et le croire. La foi, c'est une révélation. Et parfois, nous croyons aussi, n'est-ce pas, à un médecin terrestre quand il nous dit que ces comprimés sont bien pour nous. Alors nous croyons, n'est-ce pas, et nous les prenons. À plus forte raison, combien de fois nous ne devrions pas croire Dieu qui nous a donné sa promesse et qui l'a accompli. Et je dois dire que depuis ce jour, ma femme a changé. Quelque chose a changé. Et un miracle a eu lieu. Et nous ne voulons pas aller par cela de maison en maison et nous faire grand avec cela. Mais nous pouvons louer la grâce de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Et nous voulons faire que ça. Pas louer un homme, remercier un homme, honorer un homme, mais louer Dieu seul et sa grâce et la puissance de sa guérison qui est encore là. Et nous sommes heureux et reconnaissants pour cela. Aussi, pour tous les autres frères et sœurs, des choses se sont passées. Ils ont été guéris. Et nous sommes reconnaissants à Dieu et reconnaissants pour cela. Loué soit-il. Nous voulons encore venir à la prière finale. Dieu fidèle, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole que encore ce soir tu nous as adressée. Nous te remercions pour chaque instruction que nous avons la grâce d'entendre de toi. Et nous voulons te croire, Seigneur, et te faire confiance. Pas seulement de venir et de penser, bon, nous allons voir ce qui va se passer, comment les choses iront pour moi. Non, nous croyons que ce que tu dis, tu le fais. Car tes promesses sont oui et amen. Loué sois-tu, Seigneur, pour cela. Nous te disons merci aussi pour cette grâce, cette heure de grâce. Et demeure avec nous et conduis-nous encore demain à nous retrouver pour que nous puissions louer ton nom, élever ton nom et te louer et t'exalter. Alléluia. Te soit apporté à toi l'agneau. Amen. Amen. Soyez remis entre la grâce du Seigneur et au Seigneur et en sa grâce jusqu'à demain. Fin de la transmission.